Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez le Carnet de région, le magazine d'information des radios associatives et non commerciales de Languedoc-Roussillon. En ouverture de ce carnet, la députée européenne de Montpellier, Virginie Rosière, répondra aux questions de RCF Maguelonero pour expliquer ses réticences sur le traité transatlantique ou TAFTA actuellement en cours de négociation. Puis nous prendrons la direction des Cévennes gardoises où le mouvement Nuit Debout prend racine dans le village d'Omessas. Nous irons ensuite à la rencontre, à l'occasion de son passage au Vigan, de Johanna Silva du journal Fakir, partie prenante de l'émergence de ce mouvement, deux sujets de Radio Escapade. Pour la page culturelle de ce carnet de région, RPH nous en dira plus sur le festival Arabesque à Montpellier et côté sport, RCF Hérault Maguelone, en écho au festival international des sports extrêmes, s'intéressera à l'école Montpellier Skateboard. La France prévient, pas d'accord sur le TAFTA si aucun équilibre n'est trouvé dans les négociations États-Unis-Europe. Ce projet de traité vise à créer une vaste zone de libre-échange transatlantique. Les négociations en cours sont opaques et les 248 pages révélées par Greenpeace confirment l'inégalité des pourparlers. La députée européenne du Parti radical de gauche, Virginie Rosière, originaire de Montpellier, partage les craintes des gouvernements français et allemands.
C'est un alignement par le bas des réglementations environnementales. C'est aussi des difficultés pour l'Union européenne pour faire reconnaître son modèle. Je pense en particulier aux indications géographiques. Donc autant d'inquiétudes qui se retrouvent confirmées dans les documents qu'a révélé Greenpeace.
Justement, en 2015, vous avez travaillé sur un rapport sur l'extension de la protection des indications géographiques, un sujet, vous venez de le dire, qui se retrouve mêlé au TAFTA. En quoi précisément cela peut menacer ces indications ?
Aujourd'hui, les États-Unis ne reconnaissent pas du tout la légitimité d'une indication géographique, c'est-à-dire de lier une appellation, le nom d'un produit à un territoire. C'est le cas, vous pouvez trouver du champagne, du roquefort qui sont produits aujourd'hui aux États-Unis, et les États-Unis considèrent qu'ils ont le droit d'utiliser ces noms-là. Ça n'est pas le cas en Europe, puisque vous le savez, en Europe, on reconnaît la typicité et l'appartenance géographique de certaines appellations, comme celle que je viens de mentionner. Et donc si on devait conclure un accord avec les États-Unis, c'est-à-dire aligner nos réglementations de part et d'autre de l'Atlantique, ça voudrait dire que demain, du champagne ou du roquefort produit aux États-Unis pourrait être accepté sur le territoire européen. C'est donc la fin, quelque part, de nos indications géographiques, puisque ce serait reconnaître qu'il n'y a plus d'attachement d'un nom à un territoire.
Face à ce blocage, Mathias Fekel, le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, il a estimé que l'arrêt des négociations est l'option la plus probable. Est-ce que vous partagez son avis aujourd'hui ?
Si on regarde les documents de Greenpeace, on voit bien qu'on a effectivement une dissymétrie dans la négociation et que les États-Unis aujourd'hui ne sont pas très allants pour aller dans le sens des demandes européennes. On a parlé des indications géographiques, mais aussi on a aussi un gros problème sur les marchés publics. Nous, ce que devrait demander l'Union européenne, en tout cas, c'est l'équité, la réciprocité dans cet accord. Aujourd'hui, vous savez, les marchés publics européens sont largement ouverts, y compris aux entreprises américaines. C'est totalement, on est sur près de 90% de marchés publics qui sont ouverts. À l'inverse, aux États-Unis, vous avez moins de 30% des marchés publics qui sont ouverts aux entreprises européennes, et les États-Unis aujourd'hui ne veulent pas bouger sur ce sujet, comme sur d'autres. Donc effectivement, dans ces conditions, continuer à négocier n'a pas vraiment de sens.
Des propos recueillis par Lauriane Avard de RCF Maguelone Hérault. Perpignan, Nîmes, Alès, Montpellier, le mouvement Nuit Debout gagne Languedoc-Roussillon. À l'écart des grandes villes, les zones rurales s'organisent aussi sous la bannière Nuit Debout pour refuser le projet de loi travail et esquisser de nouvelles pratiques politiques. Exemple, à Omessas, un village des Cévennes gardoises de 230 habitants où se tient une fois par semaine une réunion de Nuit Debout qui rassemble 50 personnes. Héloïse y participe, tout comme Sacha, qui a 11 ans. Héloïse.
En fait, la loi travail, c'est vraiment la goutte d'eau. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, où vraiment tout le monde, on a ras-le-bol de cette situation de galérer pour trouver du travail, ou alors tu travailles mais t'as un salaire misérable, ou alors tu travailles mais personne te paye, donc t'es obligé d'avoir le RSA. Par exemple, moi je suis artiste et ça fait un an et demi que j'ai perdu mon intermittence et je sais pas du tout comment arriver à le réavoir l'intermittence, et du coup je suis au RSA et je suis obligée de jouer gratuitement. Et donc du coup, bah, je suis prise pour une moins que rien. Enfin, je ne suis pas considérée comme une vraie artiste professionnelle, alors que c'est mon cas.
Ouais.
Et du coup, je pense que ce cas de figure, c'est le cas de vraiment tout le monde. En fait, tout le monde est désemparé et mal dans son travail, parce que des fois, c'est un travail forcé. Tu n'as pas le choix de faire ce travail-là parce que tu dois nourrir ta famille. Bah, on n'a plus envie de vivre comme ça. On n'a plus envie d'être maltraité, en fait, quelque part. Quoi.
Alors, on va procéder au vote. Donc...
Pourquoi ce choix entre Omessas et le Vigan ? Qu'est-ce qui vous a déterminé ? Enfin, c'était quoi les arguments pour aller soit au Vigan, soit au Omessas ?
Le Vigan, c'est vraiment c'est la grosse ville où il va y avoir tous les gros lobbies, on va dire, tu vois, comme la banque, comme les banques, comme les supermarchés. C'est là où il va y avoir certaines luttes au niveau des salariés, etc. Qui vont être...
C'est pas Wall Street non plus, parce que tu dis les lobbies, les banques.
Ouais, je vais un peu loin. mais en fait, si tu veux, c'était pourquoi mais ça, c'était vraiment pour toucher les gens du village et pour entrer en communication avec les propriétaires du village, avec les personnes âgées du village, enfin de rentrer en lien avec tous les habitants du village, parce que on n'a aucune occasion. Enfin, on avait il y a un mois, on avait commencé justement à préparer des soirées documentaires avec débat à la fin. Donc, on avait réussi à réunir une trentaine de personnes, mais après, ça s'est essoufflé. Et surtout qu'il y a vraiment énormément de choses à faire sur ce village-là, rien que de faire des jardins partagés, de faire un bar associatif, il y a plein d'idées, quoi. Enfin, on s'est mis tous d'accord que c'était plus intéressant dans un premier temps de faire ça au MSS, mais de suivre aussi en parallèle l'AG au Vigan, d'aller régulièrement aussi à Montpellier.
Oui, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs.
Et c'est ce qu'on fait depuis un mois.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est du supralocal. C'est un jour de la semaine, et puis la fois d'après, le lundi, puis la fois d'après le mardi, puis la fois d'après le mercredi. Voilà.
Sacha, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette nuit debout, de ce qui s'est passé ?
Je pense que c'est un bon moyen de parler entre nous et de coopérer, justement, et de parler de plein de choses comme l'élevage, l'écologie, plein de choses. En ce moment, dans ce monde, tout ça, ça gère souvent avec l'argent. Et nous, on veut faire quelque chose d'autre qui soit... plus approprié à nous. Comme quelqu'un disait, je ne sais plus son nom, une monnaie locale par exemple, ou des échanges pour pouvoir vivre avec le maraîchage, avec l'élevage et tout ça.
Ce qu'on peut faire, c'est voter pour le principe de réorganiser des assemblées générales, et ensuite la commission d'organisation des assemblées générales réfléchira à le jour qui convient à tout le monde.
Voilà, je crois que c'est un peu tout ça qu'on aimerait que ça change. On aimerait de recréer un nouveau système, recréer quelque chose où justement on est libre, où on peut travailler mais passionnément. Enfin, on fait quelque chose parce qu'on aime faire cette chose-là, et que le lendemain, si on a envie de faire autre chose, ben, on peut faire. Même aujourd'hui, même les études, au final, elles ne servent à rien, parce qu'un mec qui a un bac plus 7, il se retrouve caissier à Lidl, alors qu'il a fait énormément d'études. Enfin, il n'y a pas de suite, quoi.
Le mouvement Nuit Debout a commencé sur la place de la République à Paris depuis plus d'un mois. Le 31 mars, l'appel était lancé aux manifestants de ne pas rentrer chez eux après une journée de mobilisation. Ils ont été plusieurs milliers à occuper l'espace public. De jour en jour et de semaine en semaine, le mouvement s'est étendu en de nombreux endroits de France. Le journal Fakir et son rédacteur en chef François Ruffin comptent parmi les initiateurs de Nuit Debout, notamment grâce au succès du film qu'il porte « Merci patron ». À l'occasion de son passage au Vigan pour une projection le 21 avril dernier, Johanna Silva de Fakir nous raconte la genèse de cette première Nuit Debout.
Quand on a commencé à montrer le film dans les salles de cinéma, à des, disons, pas au premier cercle, mais à des gens qu'on ne connaissait pas et tout. Donc ça a commencé en décembre et ça s'est intensifié en janvier-février. Petit à petit, les salles de cinéma se sont remplies, tout était, enfin, on a refusé des gens et tout. Et surtout à la sortie du film, les gens avaient cet élan, avec une énergie, et se demandaient qu'en faire. Enfin, ils nous demandaient, et nous on n'a pas forcément la réponse, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Donc on s'est mis à réfléchir quand même. Et donc il y a Frédéric Lordon qui a écrit un papier dans Le Monde diplomatique du mois de février. Donc c'était la DER du mois de février, où il disait que le film pouvait avoir le rôle d'une étincelle dans une barrique de dynamite. Sur le coup, on s'est dit, oula, il est quand même... il est sûr de lui, mais... C'est plus facile d'être sûr de soi quand c'est pas son objet. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous a donné du courage et on a organisé une soirée la veille de la sortie du film à la Bourse du Travail à Paris qui s'appelait Leur faire peur. L'idée principale, c'était on ne rentre pas chez nous après la manif. On était le 23 février, donc pour la manif du 9 mars, qui n'était pas encore décidée ce soir-là, c'était un peu court. Donc on s'est reporté sur la manif du 31 mars. Et il y a un petit groupe de personnes qui se sont retrouvées au bistrot après la discussion à la Bourse du Travail. Donc moi, j'en étais. François, il était crevé, il est parti se coucher, je me souviens. Il y avait Les Jolis Mômes, qui est une compagnie de théâtre à Saint-Denis. Il y avait Les Engraineurs, c'est une association qui fait des marches contre Monsanto à Paris. Il y avait des étudiants, il y avait des syndicalistes, il y avait des gens qui sont juste des gens, et c'est très bien. Et on était voilà, 15-20, et on a commencé à se dire, bon, bah, on va organiser l'occupation. On n'était pas sûr que ce serait une place, mais ça s'est imposé quand même assez vite, parce que dans un souci d'ouverture, si t'es dans un lieu fermé, c'est quand même pas la même démarche pour les gens de passer. Et on va mettre en place les conditions logistiques pour que ce soit possible. Et on n'a pas parlé politique, finalement. On s'est dit, bon, bah, la politique, on en parlera le 31 mars quand on aura le temps. Et le problème, c'est qu'on n'a plus le temps de parler, enfin, plus ou pas le temps de parler politique. Ouais, c'est quand même des gens politisés, militants qui étaient là ce soir-là. Et on a tous fait 10 millions de manifestations entre République et Nation. Bon, alors c'est parisien, là, du coup, mais je pense que tout le monde est un peu au courant que les trajets sont toujours les mêmes, et Bastille, Nation, République, et on se retrouve à Nation ou à Bastille, et on, voilà, c'est la fin, et on va tous rentrer chez nous. Finalement, on a fait la manif avec nos potes, on a rencontré personne, on n'a pas discuté de politique, et c'est frustrant. Donc on se dit, là, on rentre pas chez nous, on crée les conditions de la discussion, on organise des concerts pour aussi ramener d'autres gens dont ça serait pas le... réflexe premier de venir juste discuter de politique ou qui font de la politique autrement en dansant aussi. Et on a fait ça, mais un peu voilà, sans savoir. En plus, je le dis tout le temps, mais 3 jours avant, la météo était... moi, j'ai été déprimée parce que je me disais, mais je cherchais des barnums. J'étais responsable matos. Alors, je cherchais des barnums dans tous les sens pour essayer d'avoir un maximum de barnums parce qu'il allait pleuvoir. Alors, ça va être une catastrophe. Tout le monde va faire la manif sur la pluie. Personne va vouloir venir. Donc, finalement, il se trouve que le premier soir, il y avait déjà 4000 personnes, alors qu'il y avait vraiment eu un temps dégueulasse et que tout le monde était crevé, tout le monde était trempé, et ils sont quand même venus, et ça a été une très belle soirée. Et voilà, il y a eu un appel à revenir le lendemain, à revenir le surlendemain, et ça s'est créé comme ça. Tous les soirs, il y a des AG à République, et que ça SM, voilà, avec plus ou moins d'intensité et plus ou moins de monde, mais c'est pas forcément ça le plus important, et jusqu'au Vigan.
Le Vigan, sous-préfecture du Gard de 5000 habitants, tient Nuit debout régulièrement, tout comme Florac, sous-préfecture de Lozère de 2000 habitants, ou encore Brissac, village de l'Hérault qui compte 600 habitants. Vous venez d'entendre 2 sujets proposés par Pierre Isnard-Dupuis et Sam Mineur de Radio Escapade.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
À Montpellier, le festival Arabesque démarre le 11 mai prochain. Exposition, cinéma, table ronde, musique, contes et même un événement multidisciplinaire à l'initiative de l'association du quartier populaire de la Paillade Unisson marque cette 11e édition. La structure qui a fêté ses 15 ans en 2015 souhaite rendre la culture accessible au plus grand nombre. Habib Deshraoui, directeur de l'association et du festival.
On a pu dresser un petit bilan l'année dernière, parce que l'année dernière coïncidait avec les 15 ans d'Unisson et les 10 ans du festival arabesque. Donc on a fait un très long bilan à la fin de l'été pour faire une petite rétrospective un petit peu du travail accompli, de toutes les actions qu'on a pu développer et le public que ça a pu amener. Et on a été, je veux pas dire satisfait, parce que quand on est satisfait, hop, ça s'arrête et c'est comme si on reprenait à zéro. Mais là, c'est vrai qu'on a été bluffé, c'est le vrai terme, par les dizaines, des centaines de milliers même de personnes qu'on a pu faire venir d'abord au festival, mais aussi sur l'ensemble des actions d'Unisson. Donc on est très content du travail qui a été fait. On pense que, je dis ça à mon équipe, même si je les encourage, et en les encourageant eux, je m'encourage aussi à moi, naturellement, par ricochet. On est très content du travail qui a été fait, mais qu'on peut continuer et que notre tâche n'est pas terminée. On peut dire que le premier gros bilan a été très largement atteint.
Le festival arabesque se déroule pour une grande partie dans le domaine départemental d'Eau. Le concert de l'orchestre arabo-andalou de Fès sera quant à lui programmé à l'Opéra de Montpellier, c'est-à-dire le théâtre qui se trouve place de la Comédie. Un événement qu'Habib Deshraoui essaye de programmer depuis 3 ans.
Mohamed Briwal est considéré comme l'un des plus grands maîtres de la musique arabo-andalouse dans le monde. Donc il est sollicité de par le monde, des États-Unis à l'Asie.
Trois ans
qu'on essaye de l'avoir.
Il n'était pas disponible.
Jamais. Et là, pour tout vous dire, la première date était programmée le 11 mai. Et on a dû la reboucher parce qu'il était sur une création avec des musiciens qui arrivent du Pakistan et ils font justement l'ouverture du festival de Fès qui a lieu à partir de ce week-end.
Assez très important.
Très beau festival avec qui nous allons collaborer de plus en plus.
Ils sont combien de musiciens dans cet orchestre ?
Ils sont 8 musiciens.
Ce concert aura lieu le lundi 16 mai à 20h. Toute la programmation du festival arabesque qui se déroule du 11 au 22 mai est disponible sur le www.festivalarabesque.fr. C'était un sujet d'Isabelle Bourdet de Radio Pays d'Hérault. Pour finir ce carnet de région, on reste à Montpellier à l'occasion de la 20e édition du FIS, le Festival International des Sports Extrêmes, devenu rendez-vous incontournable pour les meilleurs riders du moment, BMX, roller ou skate. Lauriane Avard de RCF Maguelon Hero s'est intéressée à l'école Montpellier Skateboard qui participe au développement des sports de glisse urbain dans la capitale héraultaise.
Allez, on se place.
Vous pouvez faire un petit tour doucement.
On se sent un peu autonome quand on descend la pente, je sais pas, c'est cool.
T'as un petit peu peur, mais c'est excitant en même temps, c'est amusant.
Voilà, c'est ça.
Allez, essaye encore.
C'est différent de tous les sports habituels aussi qu'on peut connaître et souvent auxquels on met nos enfants. Du coup, justement, vu que c'est un environnement qu'on connaissait pas du tout, de se dire, tiens, comment ça se passe, l'univers du skate.
J'aime bien cet esprit au skatepark, quoi. T'es débutant, t'es expert, tout le monde sur le même circuit, quoi. Tout le monde fait attention à tout le monde. C'est une communauté que je trouve assez agréable, assez sécurisante pour les gamins, quoi.
Oui, c'est ça qui est marrant, c'est aussi quand t'as des copines et que tu peux skater avec elles. J'aime bien glisser, tout ça, et c'est cool, super génial.
Le stand de Montpellier Skateboard sera présent tout au long du FIS qui se tient jusqu'au 8 mai à Montpellier. Ici s'achève ce carnet de région. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau magazine d'information des radios associatives et non commerciales de Languedoc-Roussillon, réalisé par Radio Escapade, qui aura cette charge et ce plaisir tout au long du mois de mai. En vous souhaitant de belles découvertes à l'écoute de votre radio, à très bientôt sur les ondes.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.